Moïse était un très grand homme de Dieu. Moïse a fait preuve de courage, a fait preuve de patience, a fait preuve de beaucoup de qualités. Mais nous connaissons ce qui s'est passé à un moment donné dans sa vie où ce n'était pas le cas, où il manquait justement de patience. On trouve ceci, mais je ne m'y rapporte pas, dans Nombre chapitre 20. Et comme a dit un commentaire que, en anglais qui est assez connu, qui fait office de référence, Jameson Fawcett Brown, c'est un grand commentaire, qui parlait à propos de Moïse à ce moment-là, que lors de cette occasion, Moïse, je mets dans mes propres paroles, que lors de cette occasion, Moïse a agi avec hâte et d'une façon passionnée. Il devait parler, Dieu lui a dit de parler au rocher, mais il a frappé le rocher de foi dans son impétuosité et qu'il a parlé au peuple. Il s'est précipité, c'était dramatique, on connaît le résultat, c'est qu'il n'a pas pu rentrer dans la terre promise, malgré le fait qu'il a demandé à Dieu par la suite qu'il pouvait y rentrer. Et il a fait à la hâte, et la hâte, un synonyme de la hâte, c'est le fait d'être impatient. Impétuosité revient aussi à faire quelque chose à la hâte ou d'une façon impatiente. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de la patience, de l'importance de la patience, parce qu'on peut imaginer que la patience, bon, c'est agréable d'avoir la patience, mais que la patience est quelque chose qu'on pourrait avoir en option. Bon, si on a la patience, tant mieux. Si on n'a pas la patience, bon, c'est pas la fin du monde. Mais on va regarder, si vous voulez bien, Luc chapitre 21, verset 19, pour voir ce que la Bible dit. Parce qu'en définitif, la patience est, point de vue biblique, la patience est indispensable. Ce n'est pas une option si nous voulons entrer dans le royaume, dans un contexte spirituel ici, dans un contexte même prophétique, on voit qu'il est question de patience, ça dépend des traductions, dans Luc chapitre 21 et le verset 19. Luc chapitre 21 et le verset 19. Comme j'ai dit, c'est un contexte prophétique avec lequel nous sommes bien familiers, où on parle de l'époque de la fin. Et Dieu dit dans le verset 19, je lis d'abord dans le second, Luc 21, verset 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Dans l'Ostervelt de Derby, nous lisons ceci, « Possédez vos âmes par votre patience. » Possédez vos âmes par votre patience, et dans le synodal, c'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Donc, c'est pas quelque chose que est agréable d'acquérir en plus. C'est indispensable. C'est quelque chose qui est très important et qui garantit notre avenir, si je puis dire. C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. L'impatience est un mal moderne. Parce que l'homme, maintenant, il veut tout de suite. Et le problème avec l'impatience, c'est que l'impatience peut engendrer, c'est ce qu'on vient de voir avec Moïse, l'impatience peut engendrer le péché. Hébreux chapitre 1, il suffit d'une seule fois. L'impatience peut engendrer le péché. Hébreux chapitre 6, le verset 12. Hébreux chapitre 6, et le verset 12. Bon, je commence avec le verset 11 pour situer un petit peu le contexte. Donc, conseil de Paul, probablement, très certainement, au peuple de Dieu, verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, toujours question de la fin, jusqu'à la fin, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ostevat, par la foi, par la patience, sont devenus, mais, j'aime beaucoup cette traduction parce que c'est très personnel, par la foi, par la patience, sont devenus mes héritiers des promesses. D'où son importance, puisque nous aussi, nous voulons être des héritiers des promesses. De toute façon, que vous traduisez ça par persévérance ou que vous traduisez ce passage par patience, il faut les deux. Il faut les deux pour entrer dans le royaume. Il faut la patience, il faut la persévérance. Et nous aussi, nous voulons hériter des promesses. La vie éternelle, c'est ce que nous espérons. Nous vivons, nous souffrons et nous marchons avec Dieu pour pouvoir être dans le royaume et pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Les choses parfois ne vont pas aussi vite que ce que nous voulons, entre autres les prophéties, les événements. Nos rêves ne se réalisent pas aussi rapidement que nous espérions, nos espoirs, nos rêves. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mais c'est Dieu qui est le maître des temps. Et c'est Dieu qui est le maître des temps, ou du temps, dans notre vie personnelle aussi. Et ça, c'est important parce que ça nous aide, si on est conscient de ceci, ça va nous aider justement à avoir les yeux sur Dieu, être conscient que c'est Dieu qui est en charge et faire preuve de patience. Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. D'amener quelque chose à son terme, dans le but fixé. Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 8. Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 8. Nous voulons réussir. Il faut faire aussi preuve de patience. Pourquoi la fin d'une chose est mieux que son commencement? La fin d'une chose est mieux que son commencement parce qu'on a réalisé la chose en question. On a certainement surmonté des obstacles chemin faisant. Et dans bien des cas, on a fait preuve de patience pour arriver au bout. Et du reste, quand il s'agit de caractère, la caractère de Dieu, développer la caractère sainte de Dieu, la patience a souvent son rôle à jouer. Verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Il faut être lent d'esprit dans ce sens-là. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Exercer la patience va prévenir des bêtises, des erreurs, d'un manque de maturité, d'un manque de maîtrise de soi. Et Dieu veut bien sûr que nous croissions y compris dans le domaine de la patience, dans le fait de préserver la paix, d'avoir de bons fruits dans notre vie. Proverbe chapitre 14, verset 29. Il y a un mot clé qui va à l'encontre du monde moderne, c'est le clé lent, ou le mot lent ou lenteur. Proverbe chapitre 14, verset 29. Ici, une référence je lis toujours dans le second. Proverbe chapitre 14, verset 29, où nous lisons ceci. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, et celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Dans ce verset, le verset 29, c'est parfois traduit par passion. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Il est patient, il est lent en colère, il ne s'emporte pas rapidement. Celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Le rabbinat dit ceci. Être longanime, c'est faire preuve de grande intelligence, se montrer irascible, c'est mettre en relief sa sottise. Longanimité. Le shoraki est une traduction assez pittoresque et assez amusant d'un côté, parce que le Shoraki parle dans ce verset de longueur de narine. De longueur de narine. Alors, verset 17, toujours le Shoraki parle, celui qui est prompt à la colère fait des sorties, parle de court de narine. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement parce que je ne vais pas vous faire un dessin, je ne pourrais pas vous faire un dessin, mais quelqu'un qui se fâche, il y a le visage qui change. Et les narines aussi n'ont pas la même, comment dire ça? Je crois que c'est même pas la même longueur. Donc il y a longueur de narine ou court de narine en fonction de votre disposition. Et Shoraki, donc il traduit assez littéralement parfois. Voilà pourquoi il emploie ces deux expressions. Ben, si vous verrez un dessin de quelqu'un, la même personne fâchée et la même personne sans être fâchée, vous verrez la différence. 1 Samuel chapitre 13. Samuel chapitre 13. Quelqu'un qui a fait preuve d'impatience, c'était Saul. 1 Samuel chapitre 13. Verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1 000 chars et 6 000 cavaliers. Le peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils avaient peur. Ils virent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Les Philistins, qui étaient un peuple guerrier, et les enfants d'Israël avaient peur. Verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saul était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Verset 8. Saul. Il attendait 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saul. Alors Saul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, il offrait l'holocauste. Il prenait à ce moment-là, parce qu'il ne savait pas attendre jusqu'au bout, il prenait donc un rôle qui ne lui était pas le sien, en tant que le rôle de sacrificateur. Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce et il offrait l'holocauste. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saul sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû faire preuve d'un peu plus de patience. Un petit peu plus de patience, Samuel dit, qu'as-tu fait? Et Saul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que le Philistin était assemblé à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, que je n'ai pas imploré l'Éternel. C'était un raisonnement humain. Les commentaires, j'ai regardé plusieurs commentaires à ce moment-là, enfin, qui parlent de ce verset, et que ça, comme quoi Samuel avait promis d'arriver dans l'espace de 7 jours, mais que la journée n'était pas terminée. Et Samuel est arrivé à l'heure, si je puis dire, mais quand Saul a offert l'holocauste, la journée n'était pas terminée. Et donc son impatience a fait boule de neige. C'est ça le problème avec l'impatience, c'est que ça fait boule de neige et ça peut faire pécher. Les Chinois, en proverbe, les Chinois qui sont connus pour la patience, justement, dit un moment. Un proverbe chinois, un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Il aurait fallu que Saul attende un peu plus. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs, un moment d'impatience peut détruire toute une vie. Et c'était le commencement de la destruction de la vie de Saul. Et on sait comment ça s'est terminé. On sait comment ça s'est terminé. Il y a Washington, George Washington, que les Américains aiment citer comme exemple. Et peut-être George Washington est démontré comme un homme patient. Donc le premier président des États-Unis, celui qui était commandant, qui commandait les forces, ce que les Anglais appelaient à l'époque des forces rebelles. Et il était à la tête de l'armée, et une armée qui a beaucoup souffert. Ce qu'il faut savoir, c'est que Washington n'avait pas une nature patiente de lui-même. Il était plutôt, je pense qu'on peut dire, fugueux. Il a dit lui-même que la patience est une vertu noble, mais au début, il n'avait pas cette nature de patience. Il a même fait des erreurs quand il était un jeune commandant avec les Britanniques à l'époque. Mais voilà ce qu'on dit à propos de Washington. Quand il y avait le général britannique qui était retenu à New York, c'était la patience qui a fait en sorte que la guerre soit gagnée. Arrive en conclusion où ils ont gagné. La patience, c'était aussi la patience avec l'aide française, la patience avec une armée qui a mutiné deux fois, la patience avec un congrès qui a demandé, mais qui n'a pas fourni ce qu'il fallait, la patience avec le général Green, qui a perdu des batailles, mais qui a gagné la guerre dans le Sud, et finalement, le fait d'emmener la guerre à sa conclusion. La patience était à la fin récompensée quand la marine française a brièvement gagné le contrôle de la mer autour de Yorktown. Yorktown, c'est là que les Britanniques se sont rendus. Et qui a permis à Washington de délivrer le coup de grâce. À travers les grandes années, les longues années de guerre, Washington pensait continuellement de Mont Vernon. Vous avez peut-être entendu parler de Mont Vernon, c'était sa plantation, son domaine, et il voulait vraiment y être. Il a persévéré et il a pu finalement retourner à sa plantation Verdon. En 1977, après qu'ils ont saisi Philadelphie, Washington s'est rendu compte qu'il fallait qu'il soit patient, qu'il fallait qu'il fasse ce qui était nécessaire pour ne pas perdre la guerre et de préserver l'armée continentale en tant qu'une force qui savait se battre. Et je peux vous donner d'autres détails, mais c'était un homme qui était plutôt fougueux, qui était jeune, qui a fait des erreurs. Et il s'est rendu compte, il a appris petit à petit à développer cette qualité de patience. Et parce qu'il a développé cette qualité de patience, la guerre, bon, Dieu était derrière, bien sûr, mais il a aussi un plan humain, l'armée américaine a pu gagner contre les Britanniques. Et il s'est lutté donc contre une nature agressive. Il a lutté contre une nature agressive. Ça, c'est un exemple séculaire de quelqu'un qui savait justement, qui savait se dompter. Et voilà un autre proverbe, Léon Tolstoï, qui dit ceci. Les deux guerriers, il était en guerre, les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. N'oublie pas que les grandes réalisations prennent du temps et qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Je répète, Léon Tolstoï. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. N'oublie pas que les grandes réalisations prennent du temps et qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Il y a un certain parallèle, si vous voulez, entre entre Washington et le roi David. Jacques chapitre 5, verset 10. Jacques chapitre 5, verset 10. On reviendra sur Jacques 5 plus loin dans le sermon, mais j'ai voulu seulement vous lire pour l'instant le verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Il n'est pas difficile de voir la patience des prophètes. Il n'est pas difficile de constater qu'Ézéchiel a dû se coucher 390 jours sur un côté, le côté gauche, avant d'aller sur l'autre côté, lié avec des cordes. Il n'est pas difficile de voir ça. Ce qui est peut-être moins évident, c'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 2 et le verset 29, parce qu'on imagine les prophètes comme Ézéchiel, mais on n'imagine pas une personne en tant que prophète. Actes chapitre 2, le verset 29, Actes 2, verset 29, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe donc aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu. Effectivement, il y a des prophéties à propos de Christ données par David. Et donc, puisqu'on vient de voir dans Jacques que nous avons l'exemple des prophètes, on peut regarder l'exemple de David, et c'est intéressant de regarder l'exemple de David parce qu'il y a certains parallèles par rapport à Washington. Nous savons que David était un homme selon le cœur de Dieu, et que Dieu dit « homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés ». Acte 13, verset 22, j'y m'y rapporte pas. Actes chapitre 13, le 22, « Homme, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Dieu l'a choisi à cause de la disposition de son cœur. Et on sait bien que Dieu regarde le cœur. La base était donc bonne, même très bonne, mais seulement, il avait besoin d'être éduqué dans la voie de Dieu. Le point de départ était excellent, mais il avait besoin d'être éduqué dans la voie de Dieu. Et il avait besoin, entre autres, d'apprendre la patience. David, c'était pas quelqu'un qui était passif. Loin s'en faut. Pour tuer un ours, pour tuer un lion, or qu'il était tout jeune, et enlever le brebis de la gueule de soit l'ours, soit le lion, et c'est marqué, il se dressait, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est pas l'agissement de quelqu'un qui est passif. C'est quelqu'un qui va au-devant du danger. Quelqu'un qui va sauver les brebis. Il n'est donc pas passif. C'était pas son caractère. Il est devenu un guerrier de renom. Il est devenu un guerrier de renom au point qu'on chantait à son sujet. C'est ce qui a provoqué le problème, la jalousie de Saul. Mais il était loin par Dieu, par Samuel. Et lorsqu'il était loin, bien sûr, Saul était encore en vie. Il fallait donc qu'il attende. C'était, si je puis dire, c'est ma façon de m'exprimer, c'était le fait d'attendre, le fait d'être patient, c'était le contraire de son caractère. Il était réactif. Il suffit de voir comme il a réagi avec Abigail, avec le mari d'Abigail, où il voulait agir, il voulait tuer. Donc, c'était pas son caractère. Il fallait qu'il apprenne la patience. Des années Pendant des années, il était un fugitif. Il était chassé par Saul. Et même après la mort de Saul, et ça on peut peut-être oublier facilement, même après la mort de Saul, il y avait la guerre civile pendant 7 ans et demi. Il fallait qu'il attende, il fallait qu'il apprenne à attendre. Il était roi que sur le pendant ces 7 ans et demi, il n'était que roi sur la maison de Juda. Or, il avait été oint comme roi pour être roi sur tout Israël. Il a dû apprendre, étant donné son caractère, un peu comme Washington, il a dû apprendre à développer le trait de caractère de la patience. 1 Samuel chapitre 18, verset 9. Les patriarches aussi, bien sûr, ont fait preuve de patience. Abraham est sorti d'Ur quand il avait 75 ans. Dieu lui a dit qu'il allait devenir une grande nation. Il fallait qu'il attende, qu'il fasse preuve de patience et foi jusqu'à ce qu'il ait 100 ans pour que Isaac naisse. Isaac s'est marié à 40 ans. 40 ans, et il fallait qu'il attende jusqu'à 60 ans avant que les jumeaux naissent. 20 ans. Sans parler de Jacob, qui a attendu 7 ans dans un premier temps, et puis une deuxième période de 7 ans pour avoir la femme qu'il voulait avoir au début. Mais donc, 1 Samuel chapitre 18, verset 9. 1 Samuel chapitre 18, le verset 9. On chantait, comme j'ai fait référence au verset 8 tout à l'heure, Saul fut très irrité et cela lui déplut et il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Guerrier hors pair. Il ne lui manque plus que la royauté. Il commence à devenir jaloux. Lui était bien vu jusque-là. Les choses changent ici. Et Saul regardait David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Il voulait donc tuer David. Il avait le pouvoir, bien sûr. On arrive à Psaume 59, verset 1. Psaume 59, verset 1. Psaume 59, verset 1. On lit ceci. Au méchant, ne détruis pas. Poème de David lorsque Saul envoyait cerner sa maison pour le faire mourir. Et c'est donc le psaume qui était créé suite à cet incident, des gens qui ont voulu à sa vie. Dans le verset 9, « Mais toi, ô Éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces orgueilleux. Ô toi qui es ma force, c'est à toi que je regarde. » Car Dieu est ma haute retraite. Et en anglais, bon, c'est pas évident en français, mais en anglais, le mot attendre est utilisé dans ces versets. Si je continue à lire, peut-être. Dans le psaume 59. Verset 11. Le Dieu qui m'est propice viendra à mon aide. Le Dieu qui m'est propice viendra à mon aide. Dieu me fera contempler la ruine de mes ennemis. La foi et la patience qui vont donc de pair, d'attendre que Dieu intervienne. De regarder vers Dieu, d'avoir confiance en Dieu et d'attendre que Dieu intervienne. Du reste, il y a un mot qui traduit parfois dans les psaumes par le mot patience. ou le fait d'attendre, pardon, parfois traduit par espoir, s'est employé à plusieurs reprises et à plusieurs reprises dans les psaumes, et pour David, où les psaumes de David s'est utilisé même plus que la moitié des références. Par exemple, dans psaume 40, verset 1, c'est un psaume de David, psaume 40 et le verset 1. Au chef de chant de David, j'avais mis en Dieu mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Là, de nouveau, je lis dans la synodale, dans le psaume 40. Où on lit ceci. Au maître chante, psaume de David, j'ai fermement attendu l'Éternel. J'ai fermement attendu l'Éternel. Il a fait preuve de patience que Dieu intervienne. C'est intéressant parce qu'en hébreu, c'est si le mot attendu est employé deux fois, c'est le même mot en hébreu. C'est intéressant. Mais on va regarder le psaume 25, où c'est un peu plus explicite, où on voit, même si nous n'aurions pas traduit de cette façon, où on voit qu'il est question d'attendre. Donc, psaume 25, le verset 3. Si vous regardez à la maison, l'Ostervald, le Darby, vous verrez les traductions en question. Ici, j'ai le synodal, psaume 25, le verset 3. N'a aucun de ceux qui s'attendent à toi. Comme j'ai dit, on ne va pas forcément de nos jours traduire de cette façon, mais ça donne aussi le sens. N'a aucun de ceux qui s'attendent à toi ne soit couvert de honte. Parce qu'il savait, il a appris à attendre. Il savait attendre. Attendre que Dieu agisse, que Dieu prend soin de notre situation. Verset 5. Fais-moi marcher dans la voie de ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Je m'attends à toi chaque jour. C'était son état d'esprit, il avait appris. Dans la Rabbi a dit ceci, dirige-moi dans ta vérité, instruis-moi, dirige-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tout le temps. En toi, j'espère tout le temps. Il y a l'expression qui existe en français, s'armer de patience. Et c'est bel et bien s'armer de patience parce que c'est une façon de parler, c'est comme une arme de guerre. Et ça peut être une arme de guerre redoutable, le fait de savoir attendre. Actes, chapitre 26, verset 3. Actes chapitre 26 et le verset 3. C'est Paul qui parle, Paul qui parlait beaucoup, parfois, qui parlait d'une façon parfois difficile à comprendre pour nous. Et ici, il parle à un roi. Actes chapitre 26, verset 3. Car je connais, je saute au milieu, oui, verset 2 plutôt. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leur coutume et leur discours. Discussion. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Il demandait au roi de l'écouter avec patience et ensuite il commence tout son discours. Et écouter avec patience, c'est un art perdu. Parce que le fait d'écouter, c'est un art. Ça demande, oui, l'attention, ça demande que vous vous intéressez à ce que la personne dit, et que vous vous intéressez à la personne même. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le nombre de personnes, le nombre de fois que je vois à la télévision, un animateur, par exemple, qui interviewe quelqu'un, une personnalité importante, que ce soit politique, que ce soit quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est pas toujours le cas, Mais le nombre de fois que la personne, qu'on interrompt la personne, c'est impressionnant. On coupe la conversation, on coupe la conversation et ça change complètement parce que la personne donne une réponse, par exemple. La personne qui est interviewée donne une réponse. L'animateur coupe la parole et toute la conversation va tout à fait dans une autre direction et parfois on voit l'impatience de l'animateur qui transpire. Ils ont leur agenda. Les feux de la rampe peuvent être séduisants et peuvent nous inciter à montrer l'impatience. Et c'est la même chose pour nous. C'est le même principe pour nous. On peut être ébloui ou distrait par ceci, par cela, et faire preuve de manque de patience. Galates chapitre 5, verset 22. La patience est très importante. La patience importante. La patience est quelque chose qui va nous aider à aller jusqu'au bout. C'est décrit comme un des fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5 et le verset 22. Galates chapitre 5 et le verset 22. Mais les fruits, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. C'est le fait d'attendre parfois, mais faire preuve de patience et de développer donc ce fruit de l'Esprit de Dieu qui devrait être actif en nous. On voit l'impatience tous les jours. On le voit dans les magasins, on voit dans les queues. Bon, il y a des peuples qui sont plus patients d'être de nature que d'autres. Les Britanniques savent faire le queue. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu ça, ils savaient vraiment faire la queue. D'une façon patiente. J'ai connu quelqu'un, ça s'est trouvé même à Genève, à l'époque, qui savait attendre, qui a fait preuve de patience pour avoir une place de parking. Parce qu'à Genève, à l'époque, je suppose que c'est toujours vrai, et peut-être encore plus vrai maintenant, les places de parking étaient rares. Et cette personne savait faire preuve de patience, attendre qu'une place se libère. Savait attendre 5 minutes, 10 minutes s'il le fallait, le temps qu'il fallait pour qu'une place de parking se libère. Et je pense que généralement, sa patience était récompensée. Vous avez un feu rouge, vous n'êtes pas la première voiture, vous êtes la deuxième voiture juste derrière. Vous voyez peut-être combien de secondes est-ce que la personne dans la deuxième voiture attend quand le feu devient vert avant que la personne klaxonne. Et si la voiture devant cale, là ça peut être difficile. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'êtres humains qui ont colère, qui ont une certaine colère au-dedans d'eux, à cause de leur passé. À cause des choses, des événements qui se sont passés, et ils ont emmagasiné une certaine colère, et il suffit d'une petite chose pour que cette colère remonte à la surface. Et ça se voit quand la personne, par exemple, va devenir impatiente. La moindre provocation, on peut faire preuve d'impatience. 1 Corinthiens chapitre 13 définit l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 définit l'amour. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Dieu associe la patience avec l'amour. C'est quelque chose de concret. Ça fait preuve d'amour, d'être patient. L'amour agit, et l'amour agit entre autres à travers la patience. Vous prenez par exemple des personnes âgées. Les personnes âgées sont plus lentes, font les choses plus lentement, oublient parfois certaines choses. C'est là qu'il faut aussi être patient. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. La charité ou l'amour est patient. C'est la première chose qui est décrite ici. Donc, le fait de faire quelque chose. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Définition de la charité, verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Ça, de nouveau, ça a à voir avec la patience. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 7. Elle excuse tout, cet amour. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et parfois, il faut supporter des situations qui sont difficiles. Qui sont difficiles. Jacques chapitre 1, verset 19. La lenteur a sa place, ne serait-ce que point de vue de ne pas s'énerver trop facilement ou ne pas s'énerver du tout, mais Jacques chapitre 1, verset 19. Jacques chapitre 1, verset 19. J'étais raté à un moment donné, nous étions ratés à, parce qu'il fallait pour venir, et j'étais en train de manœuvrer la voiture hier. Et bon, j'étais pas 100% à l'aise pour manœuvrer, parce que la voiture était un peu différente par rapport à d'habitude, et donc j'ai pris mon temps. Et ça a pris un petit peu de temps, parce que je voulais sortir, je voulais mettre en dans le bon sens. Et voilà qu'un petit queue qui commençait à... Parce que les gens ne pouvaient plus passer. Et voilà qu'il y a un petit queue qui commence à se former. Toujours est-il que là, une personne qui a passé à un moment donné, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait, la manœuvre en question. Et puis une personne a passé devant et a apparemment, d'après ce que j'ai vu, m'a copieusement insulté. Alors, c'est de l'autre côté, c'était bien, parce que j'ai pas entendu non plus. Il y avait, je crois, la clim à ce moment-là. Mais, bon, ça, ce genre de situation, même les deux autres personnes qui étaient là, n'étaient pas d'accord avec l'agissement de cette personne. Bah, Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, long à parler. Fais preuve de patience, long à parler, long à se mettre en colère. Si nous sommes lents, nous exerçons, nous pratiquons la patience et nous pratiquons aussi une certaine maîtrise de soi. Parfois, les choses n'arrivent pas tout de suite. Je sais que quand je lisais du courrier à l'époque et quand je répondais aux lettres, parfois, il fallait que je fasse preuve de patience parce que, surtout si c'est une lettre difficile, je n'ai pas voulu répondre tout de suite. J'ai voulu prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est la meilleure réponse? Les écrits restent. Les écrits restent, il faut faire attention. Colossiens chapitre 3, verset 12. Et il y a un moment pour réfléchir, pour prier. Comment faire? Quand on veut gagner une dispute, nous pouvons perdre un ami. Quand nous voulons gagner parfois une dispute, nous pouvons perdre un ami. Et le fait de gagner n'est pas forcément, ça dépend des cas, mais n'est pas forcément ce qui est le plus important. Ça dépend. On peut être agréable quand nous ne sommes pas d'accord. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et on a commencé dans un contexte spirituel, la patience dans un contexte spirituel au début du sermon. Ici, on revient à un contexte spirituel. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, donc nous chrétiens, saints et bien-aimés, parce que nous sommes saints, parce que nous sommes bien-aimés, parce que nous sommes des enfants de Dieu, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Il parle de se revêtir. Se revêtir, c'est d'enfiler, de s'enrober, si je puis dire, et d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Parfois, on a besoin de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et le pardon, bien sûr, va nous aider. Le fait de ne pas s'énerver à cause d'un manque de patience. C'est une largeur d'esprit. Nous aussi, on a hérité d'autres personnes par moment. À nous, donc, de faire preuve de patience. Et d'attendre patiemment, c'est difficile à notre époque. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Il y a des moments où nous avons l'opportunité de construire la patience. Nous voulons que Dieu résolve nos problèmes rapidement, mais Dieu peut tester notre patience, Dieu peut tester notre persévérance. Et de nouveau, nous avons un contexte spirituel ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Car en racontant à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Donc savoir la conversion, c'est important. C'est primordial. Mais comment vous vous êtes convertis à Dieu? Comment est-ce qu'on convertit? On se convertit à Dieu? Il donne l'explication. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Et pour attendre donc. Jacques chapitre 5, verset 7. Je dis qu'on allait revenir à Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, et le verset 7. Très bon exemple ici, très bonne référence. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il faut attendre que le Christ revienne. Il faut savoir attendre. Et il faut savoir attendre patiemment. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première, l'arrière-saison. Et surtout avant, le récolteur savait. Labeur savait attendre. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le jardin est en principe une école de patience. C'est une école de patience. On attend. Parce que les choses ne viennent pas tout de suite et on ne peut rien faire. Si ce n'est demander à Dieu qu'il intervienne. Proverbes chapitre 15, verset 22. Nous avons des projets, nous avons des plans. Nous avons tous des projets, tous des plans. Mais il y a un proverbe ici qui nous est donné à propos de nos projets, un conseil qui nous est donné dans Proverbes chapitre 15, le verset 22. Et c'est un projet, c'est un conseil qui demande de la patience, qui demande du temps, que nous prenions le temps de demander. Proverbes chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ça prend du temps de demander conseil, plutôt que de se précipiter, de faire comme on pense que c'est bon. Ça prend du temps et ça demande la patience plutôt que de se précipiter pour avoir toutes les informations. Pour avoir toutes les informations. 2 Pierre, dernière référence, 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. On se fait du bien quand on fait preuve de patience. L'impatience peut engendrer beaucoup de souffrance. La patience peut altérer, considérablement changer les relations entre les gens. Et l'impatience peut nous pousser au bout et nous faire pécher facilement. C'est sérieux, le sujet est sérieux, on a besoin de faire preuve de patience, d'aller jusqu'au bout, et nous voyons ici dans 2 Pierre chapitre 1 et le verset 5, 2 Pierre chapitre 1 verset 5, à partir de verset 5, le maillon d'une chaîne spirituelle, où il parle de certaines qualités, 2 Pierre chapitre 1 verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts, pour joindre à votre foi la vertu à la science la tempérance la patience. Donc c'est un maillon de la chaîne très important pour que nous puissions arriver au bout sur un plan spirituel. À la science la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel la charité. Car, verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Première étape, donc, d'avoir la connaissance. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point, si nous n'avons pas, entre autres, la patience, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, condamnation forte du point de vue spirituel. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé.